du FMI et de l'Union européenne. Accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé, c'est marqué ben, de sport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
On pourrait rajouter que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement. Hein.
Bonsoir et bienvenue dans le Canu Info. Aujourd'hui, au programme, on va commencer à parler de Linky à Lyon.
Et on poursuivra dans la rubrique locale avec un reportage sur l'auto-école Buissonnière.
On aura ensuite un entretien téléphonique avec le camarade Vincent qui est convoqué au commissariat après la manifestation du 11 février à l'Université de Lyon, manifestation en soutien aux étudiants sans papiers.
Et puis on aura un entretien sur Merci Patron.
On filera pour le national et on se rendra compte comment l'État justifie le contrôle aux faciès.
Et on vous parlera enfin dans l'agenda de Nébuleuse, le site, et du gaz de schiste. Et avant toute chose, on commence donc avec l'actualité locale.
Capitale de la résistance, Lyon ! Capitale de la résistance !
Prenons une ville, Lyon.
Lutte contre l'extrême droite, lutte contre les restructurations, manifestations de soutien à la ZAD et bien d'autres. Maintenant, dans le Canu Info, c'est la rubrique locale.
À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets
nous
les plus...
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Vous allez dire, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous
les
en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. On chanterait.
Oui, donc on enchaîne de manière un peu compliquée ce soir avec donc une petite info sur Linky. Et oui, Linky que vous connaissez tous, vous allez bientôt tous et toutes connaître. Donc Linky, c'est un petit compteur qui est arrivé. Pardon. C'est un petit compteur qui est arrivé qui remplace. En fait, les compteurs traditionnels que tout le monde connaît, là, pour le coup, avec la petite roue qui tourne. Donc, compteur mécanique. Donc, Linky, c'est un petit compteur, on va dire, électronique. Donc, tout se fait à distance. Plein de données sont envoyées, etc., à des grosses centrales, voilà. Et donc, tout ça, ça a été mis en place dans le cadre de lois un peu type transition énergétique pour des croissances un peu vertes. Donc, voilà.
Donc, c'est des compteurs d'eau, c'est ça, d'électricité?
Oui, alors oui, tout à fait. C'est bien de préciser que c'est des compteurs d'électricité, donc mis en place par ERDF. Donc, voilà. Donc alors il faut savoir que il y a eu une phase de test notamment à Lyon et en Indre-et-Loire donc entre 2009 et 2011 et que là le coup d'envoi pour complètement valider ce petit compteur c'était en 2015. Donc voilà, et donc ils ont en décembre 2015. Donc ils ont installé 25 000 compteurs supplémentaires. Et donc, alors pourquoi je vous dis tout ça? Eh ben, en fait, parce que toutes les données qui sont récoltées par Linky, parce que en fait, concrètement, comment ça se passe? Linky, c'est un boîtier électronique, tout est piloté à distance, donc plus aucune interaction humaine. Le choix des abonnements, des machins, des trucs comme ça, c'est tout fait par des opérateurs sur des centrales, etc. Et le Linky, lui, il envoie les données des consommations à ces centrales-là. Et c'est envoyé à des fréquences qui sont ajustables, mais on ne sait jamais trop comment, mais elles sont ajustables, en principe. Et du coup, toutes ces données, eh ben, elles sont centralisées où ? À Lyon. Puisque Lyon est la seule ville qui dispose de ce qu'ils appellent un centre national d'hypervision. Donc c'est le seul qui est existant. Donc après, Lyon, c'est pas un hasard, parce que Lyon, c'est déjà la ville qui est novatrice dans dans tous les trucs de surveillance en général. Donc avec la vidéosurveillance, puisque c'était la première ville, première grande ville test de la vidéosurveillance il y a déjà un peu plus de 10 ans. Donc voilà, donc maintenant bah, c'est un peu pareil, mais avec les compteurs Linky. Et d'ailleurs, Gérard, il est tout content. Et mais non, parce qu'il n'arrête pas, il est tout fier en plus de dire qu'il y a d'autres choses, hein, parce que Linky, ça fait partie de ce qu'on appelle les réseaux électriques intelligents. Et donc en fait, il y a plein de choses qui sont dans le réseau électrique intelligent. Et par exemple, il rappelait qu'il y avait 8 démonstrateurs un peu qui sont équipés donc de caméras qui surveillent le ciel et tout, les nuages, pour détecter s'il y a un gros nuage qui passe devant qui passe devant le soleil, comme ça cache les cellules photovoltaïques, donc ils peuvent anticiper les consommations d'énergie, enfin bref. Donc voilà, donc ils sont tout contents de leur truc automatisé, etc. Et donc voilà, donc Linky fait partie un peu de ce petit monde-là, de la surveillance électronique un peu plus généralisée. Et donc là, c'est directement dans le foyer, puisque voilà, c'est un Linky par habitat. Et alors, petite info technique, on va dire. Donc les données transitent par, d'une part, dans un premier temps, par les lignes électriques. Donc les informations sont envoyées dans les lignes électriques, qu'on appelle le courant porteur. Et ensuite, c'est communiqué à la grosse centrale donc d'hypervision de RDF via GPRS. Donc ça, tout le monde connaît, c'est les trucs de téléphonie. Donc voilà. Et donc ça se passe entre 24 heures, toutes les 24 heures, et entre minuit et 6 heures du matin. Et donc voilà. Et alors toutes ces données, ben elles sont envoyées à ce grand centre. Et pourquoi il y a un grand centre ? Parce qu'en fait, il faut beaucoup d'infrastructures pour traiter tout ça et analyser tout ça, parce que le but, c'est quand même de les traiter et de les analyser. Alors pour faire, on sait pas quoi, mais a priori, c'est pour que, comme c'est vendu, c'est-à-dire vous allez moins payer parce que blablabla. Mais n'empêche qu'on peut voir un peu quand vous consommez, quand vous consommez pas, quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là, etc. etc. Et après, le gros hic aussi, c'est que c'est moins évident aussi à pirater, parce que c'est plus le compteur mécanique, c'est un peu plus finos. Alors bon, voilà, donc je ne sais pas si on peut faire... En fait, il y a très peu de je sais pas, moi j'ai vu très peu de techniques en fait pour faire du court-circuitage de Linky. Donc, peut-être faire du court-circuitage direct, je sais pas si ça marche, il faudrait essayer. Mais voilà, et après c'est pareil, on peut imaginer d'envoyer d'autres types de données de consommation. Que c'est, Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui ont des merveilleuses et fabuleuses idées là-dessus, n'hésitez pas. Bon, appelez pas en direct là, parce qu'on pourra pas vous répondre tout de suite, mais vous pouvez laisser des petits messages sur le blog du Canu Info, par exemple. Donc voilà, c'était pour la petite rubrique Linky.
Et bah du coup, la suite, si je ne m'abuse, c'est un petit reportage. Un petit reportage sur quoi ? Sur le projet L'Auto-école Buissonnière, avec cette belle petite musique des années 1908, je crois, sur les premières autos. Et donc L'Auto-école Buissonnière, apprendre à conduire entre potes, passer le permis librement, donc de manière autogérée et gratuite. Un reportage réalisé lors de la présentation de la brochure mardi dernier à la Lutine.
La voiture de l'avenir. Et dans la ville. Et si tardar comme si j'avais le feu, et corps. Allons, voyons, faites de la place aux autres, au cœur du progrès. Allons, voyons.
Passeport, permis de conduire, plus une prime d'installation. Pour tes missions, tu auras un nom de code.
Faire chuter le capitalisme.
Du coup, l'idée, c'est de monter une auto-école qui marche avec le principe des candidats libres. C'est-à-dire que tu peux t'inscrire au permis, au code, sans être jamais passé dans une auto-école. Et d'arriver à le faire de manière collective et en mode do it yourself. Et de montrer qu'à plein, on peut s'apprendre des trucs, et notamment ça, et que légalement on peut s'inscrire au permis tout seul et qu'en fait ça marche et on peut avoir le permis.
Ouais. S'inscrire au code et au permis, c'est juste envoyer un dossier à une préfecture et ça coûte absolument pas d'argent. C'est les autres écoles qui s'en mettent plein les fouilles en demandant des frais d'inscription. Et du coup, on a un peu surfé sur la vague et on s'est renseigné sur qu'est-ce que ça veut dire passer le permis en candidat libre. Et autour de ça, petit à petit, on a monté le projet. Du coup, on s'est intéressé à ce que c'était le véhicule d'auto-école, est-ce qu'on pouvait s'en procurer un, comment, de quoi on avait besoin. Et on a monté le projet comme ça, petit à petit. On s'est rendu compte qu'il nous fallait un moniteur, alors comment ça se passe. Et petit à petit, on a répondu à ces questions-là collectivement.
Vous avez demandé des subventions, vous avez...
On a fait des soirées de soutien, on a fait des subventions, et du coup le mélange des deux, ça l'a fait. Après, la voiture en elle-même nous a pas coûté si cher que ça. Enfin, si c'est cher, tu vois, c'est genre 1000 euros. Du coup, si c'est cher, mais au final, c'est plus des trucs de méca ou l'assurance après, ou des trucs comme ça aussi qui font que le projet en lui-même, les collectifs, à rouler, il coûte un peu cher, mais après voilà, on se dit, là pour lancer, ouais, on calculait tout à l'heure, on a eu pour genre, pour être 2 500 euros la première année, mais après maintenant qu'on a la voiture, il y a moyen qu'il tourne pour 1000 ou 1500 euros l'année, je pense.
Entre les frais d'assurance pour nous qui s'élèvent à entre 700 et 800 euros, et la méca. Il faut compter quand même globalement en fonction de comment on traite le véhicule et dans quel état on l'obtient. Il y a facile 500, voire si on n'a vraiment pas beaucoup de chance, 1000 euros par an qui tombent en méca, quoi, parce que ça s'use et il faut souvent réparer. Quoi.
Accompagnateur ? Lui, oui. Moi, non.
J'ai accompagné lui.
En gros, on a passé le permis. Et...
Vous avez passé le permis via...
Ouais. Ça y est, c'est prouvé. C'est pour ça qu'on a sorti la
voiture. C'est pour ça. Ouais.
Parce que là, on arrive au terme d'un processus.
Bon, on est 1/2 à l'avoir.
Ouais, moi, je l'ai raté. Mais je voulais pas
réussir. Mais en gros, c'était l'idée, c'est que le projet, là, ça fait un moment qu'il tourne et on s'était dit qu'on allait vraiment de A à Z avant de sortir la brochure.
Être sûr que c'était réalisable, quoi.
Qu'on amenait une personne au permis, quoi. Parce que jusqu'à mes dates de permis, on a appris des trucs, quoi, en gros.
Le jour du permis.
ma première date de permis, on a appris une grosse axe de loi, enfin, un truc qui changeait pas mal le truc dans le projet, quoi. Un problème de... Je suis désolé, je suis pas fier. De date, en gros, le véhicule pour passer le permis doit être de moins de 6 ans. Et nous, notre véhicule était beaucoup plus vieux. Et ça, on l'a pris le jour où on allait au permis, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on attendait vraiment le fait d'avoir vraiment réussi à faire le parcours en entier avant de sortir la brochure et de pouvoir dire à d'autres collectifs ou à d'autres villes c'est cool, on a réussi à monter ça, ça vous dit de faire pareil et puis on voit comment on interagit.
Quelqu'un qui a passé la formation de l'après-midi pour devenir moniteur, après il peut accompagner combien de personnes à avoir le permis ?
Bon. Au début on croyait que c'était 3 personnes limite, c'est la loi, elle disait ça, et
Donc j'ai appris ça pendant la formation. La personne m'a dit que j'avais le droit d'accompagner 3 personnes sur une période de 5 ans à compter du jour de la formation. Et le lendemain de ma formation, je l'ai su après, mais il y a un décret qui est passé pour dire que la limite de 3 personnes accompagnées, elle sautait et que c'était illimité pendant la durée de 5 ans, le nombre de personnes qu'on a le droit d'accompagner. Du coup, voilà, c'est illimité.
Et ce qui se passe au bout des 5 ans, c'est que ta formation, elle périme ?
Ouais, elle périme.
Et donc, il faut la racheter. Et donc, il faut la repasser, quoi.
Et ta formation, elle est passée par qui ?
Par une auto-école.
Par une auto-école.
Ouais,
une
auto-école. Ah,
il faut la payer.
Et ce projet, il a été...
C'était 150 euros, là, parce qu'on était plusieurs dans le véhicule. C'est 400 si t'es tout seul.
Faut mettre plusieurs dans le véhicule.
Et après, sur la formation, là, fin, c'est surtout une question de thunes, où t'as vraiment genre n'importe qui a l'argent de côté, il peut la faire, ou ça demande de savoir des trucs, de préparer des trucs avant d'y aller?
Non, c'est plus tu payes pour avoir le droit d'obtenir le diplôme de la formation, quoi. C'est genre, c'est 4 heures, donc une demi-journée. La première heure, c'est hyper théorique, genre la personne, elle t'apprend... Est-ce que c'est les règles basiques de la route, enfin quelque chose que tu es censé savoir quand tu as le permis en fait, et vu que ça s'adresse à des gens qui ont plus de 50 permis, c'est un peu bidon. Et après tu montes en caisse et là on était 3 et du coup on a conduit tous les 3, enfin on n'a pas conduit, on a accompagné tous les 3 pendant une heure la personne de l'auto-école qui était au volant et qui faisait volontairement des erreurs sur la route pour nous inciter à nous servir des doubles commandes, à mettre des coups de volant, à récupérer ses erreurs, quoi, à griller des feux rouges, des trucs comme ça. Et voilà, et après, il te file un papier, et c'est tout. Et te référence à la préf, comme ça, en cas de contrôle de flic, quand t'es en leçon sur la route, et ben, ils savent que t'as vraiment cette formation et que c'est légal ce que tu fais, quoi. Mais c'est une question d'argent, globalement, c'est tout ça.
Jérôme, salut. Mais t'es venu en voiture ? C'est à toi cette auto-école ?
Oui, j'ai bien roulé. Mais non, si je t'enlève le ferry, j'ai mis 18 heures porte à porte depuis Chambéry.
Et de l'autre côté, si c'est un apprenant qui veut rejoindre ce projet ou participer à un projet comme ça, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Comment ça se passe ?
Sur Lyon, il faut qu'il nous envoie un mail.
C'est l'ambiguïté du projet, c'est qu'à la fois nous, on a monté ce projet, du coup, évidemment, on est un collectif qui possède beaucoup d'informations sur comment faire et on a beaucoup. On peut accompagner les gens dans ce processus, donc évidemment, on a une adresse mail, c'est zéro de conduite. Enfin, c'est facile de la trouver sur internet. Et elle est dans la brochure aussi, et donc évidemment les gens peuvent nous contacter. Après, c'est quelque chose qui est assez individuel en fait, le parcours du permis de conduire. S'inscrire au code, il faut que les gens le fassent par eux-mêmes, et peut-être ils ont une envie de collectif pour ça, se contactent les uns les autres. Et nous, on est là aussi pour faire du lien entre les gens. On a un outil, on a un pad sur internet, et puis on a encore du coup l'adresse mail avec la liste mail qui permet de mettre en contact les gens. Et on a du coup des documents et de la matière quoi à fournir pour que les examens soient réussis. Et pour le permis, évidemment, on met en lien aussi des apprenants et des accompagnateurs. Mais on ne peut pas faire plus, quoi. Et on ne peut pas être plus que des médiateurs, quoi. Et c'est pour ça qu'on a écrit cette brochure aussi, pour autonomiser les gens dans leur démarche et pour pas justement... avoir des informations au compte-goutte à chaque fois et qu'ils puissent monter leur projet, voire même leur propre collectif, même si du coup on n'a qu'un seul véhicule pour l'instant, double commande sur Lyon. Et évidemment, ce véhicule il est collectif, évidemment à condition de s'être, s'être rencontré et de s'être encardé avant et d'être sûr que voilà, que quand le véhicule est pris, ça laisse personne, quoi. Évidemment, c'est tout un truc d'entente. Et au bout d'un moment, là pour l'instant on a besoin du véhicule, mais bientôt on aura passé nos permis, on n'en aura plus besoin, donc il va passer de collectif en collectif. Mais du coup, presque, c'est plus quelque chose qui se crée un peu en groupe affinitaire, quoi, et qui tourne comme ça, de groupe affinitaire en groupe affinitaire, plus que quelque chose qui est réellement vécu comme extrêmement collectif, où on va venir s'inscrire auprès d'une structure qui aurait un local, et voilà, chacun le vit un petit peu à sa manière, soit à 2 ou 3, soit à plein, soit en fonction de son mode de vie aussi, quoi. Et nous, on est juste là pour faire du lien et on n'est pas... Ouais, on est là pour faire du lien, quoi, avec plaisir.
Vous avez rencontré d'autres personnes dans d'autres villes un peu qui avaient des projets un peu comme ça ?
Non, moi, j'ai... Enfin,
pas mal de gens d'autres villes qui attendent un peu la brochure pour que ça se rencarde et qu'on se capte et qu'on voit si ça pouvait se monter dans d'autres villes, quoi. Et du coup, il y a pas mal de gens qui ont l'air un peu motivés. C'est principalement pour ça qu'on a fait cette brochure aussi, pour que ça puisse... Parce qu'en gros, on a capté plein de gens, on en parlait à l'oral, machin, mais à l'oral, citer des textes de loi à l'oral, c'est pas super précis, quoi. Et du coup, au moins une fois, c'est catalogué et voilà, c'est fait, quoi. Et après, non, à notre connaissance, en tout cas, ça n'existait pas avant. Et du coup, là, il y aura peut-être d'autres collectifs chauds dans d'autres villes, du coup, qu'on voit, qu'on arrive à se regarder, ouais.
J'ai toujours aimé les sports et l'automobile surtout. Mais moi, comme je n'ai pas le sou, c'était donc bien à tort. Soudain, la guerre éclata et l'armée prit aussitôt toutes les voitures de gala. Il ne resta plus que les tacos. C'est ainsi que pour 10 francs, j'ai acheté tout dernièrement une 3 choux qui va bien. Je l'ai passé au Ripollin. Tous les gens du quartier se figurent que j'ai hérité. C'est la gaieté. Enfin, j'ai une auto. Enfin, j'ai une auto, ah c'est merveilleux comme ça file. Enfin j'ai une auto, enfin j'ai une auto. Vraiment y a rien de mieux que l'automobile.
Et après non, de toute façon le parcours du parcours un peu perso d'une personne, il est assez simple quoi. C'est jamais que des serfards envoyés en fait. Enfin la partie administrative c'est deux serfards envoyés pour le code. Ils vous les renvoient, ils vous convoquent, vous y allez et rebelote pour le permis quoi. Enfin, cette partie-là, en tout cas, la partie en dehors de l'apprentissage, la partie administrative, elle est assez simple.
Du coup, moi, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est... En vrai, là, nous, on apprend déjà un truc méga dans les clous. Et ouais, on apprend à conduire avec une voiture double commande qui, légalement, est reconnue par la loi, quoi. Ce qu'on fait, c'est légal quasiment de A à Z. En vrai, les gens qui sont, je sais pas où, n'importe où, et qui ont les moyens de conduire sur n'importe quelle voiture avec un copain sympa et qui empruntent des routes qui sont pas fliquées, ben en fait, c'est cool, t'apprends à conduire comme ça, et puis le jour J, tu te pointes à ton permis et personne va te demander où et comment t'as appris à conduire. Donc ce projet, il présente la quasi-totalité des possibilités pour passer son permis. Et on peut prendre la totalité et tout assembler et faire une espèce d'énorme puzzle ou prendre un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Mais bon, dans tous les cas, c'est réappropriable de mille manières ce projet, quoi. Enfin, en vrai, celui qui a envie d'apprendre à conduire à la campagne et de se présenter n'importe où et de dire salut.
Puis surtout ceux qui conduisent déjà et qui conduisent sans permis, mais qui ont à peu près les connaissances, en fait, ils peuvent le passer assez rapidement comme ça, quoi.
Bon, on lui dira que. Bah oui, qu'il y avait bien une auto-école, parce que ça, on peut pas.
Ouais, c'est ça. C'est quand même le gros constat de ce projet, c'est que tu peux arriver, te présenter à l'examen et ils ont absolument aucun moyen de savoir comment t'as appris, par qui t'as appris, et ils en ont pas la volonté en fait. Du coup, à partir du moment où t'as les connaissances techniques pour le passer, tu peux y aller et que t'as le code aussi quand même, ça c'est le truc un peu qu'il faut. Tu peux carrément y aller et ils s'en foutent de qui c'est que t'as appris, si c'est une auto-école, si c'est une personne qui a la formation, qui a pas la formation, si c'était sur une voiture double commande, sur la voiture de je sais pas qui ou quoi. Et du coup, il y a un flou énorme autour de ça et c'est pas mal pour tous les gens qui veulent juste passer leur permis à l'arrache.
Vous leur avez raconté.
Mes cartes de sécurité sociale et mes permis de conduire étaient faux. J'ai jamais voté, jamais payé d'impôts.
Ouh, Booba. Mais attendez, on a squeezé la super punchline où il dit il n'y a qu'un pas entre le concessionnaire et le carjacking. Voilà. Super, merci la technique.
Mais par contre, alors si vous voulez plus d'informations sur l'auto-école buissonnière, vous pouvez joindre l'équipe de l'auto-école par mail à 02conduite@riseup.net. Et vous pouvez retrouver la brochure en ligne sur rébellion.info et sûrement prochainement sur infokiosque.net.
Et ben voilà, super, maintenant on va passer à l'interview du camarade de Lyon 2.
Eh ben... Bah alors, est-ce que tu nous entends, par exemple, ou pas? Ah bah non, je l'avais dit, ça marcherait pas.
Alors, c'est une interview téléphonique, hein, c'est pour ça qu'il nous entend pas.
Ah oui. Et ben alors, pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? C'est horrible.
Alors, moi, pendant ce temps, je peux vous raconter une blague, bien sûr.
Ah voilà, merci. Et ben...
Faut raconter la blague ou pas? Allez, on raconte la blague. Alors, est-ce que quelqu'un dans le studio connaît ou veut connaître un proverbe vegan ou végétalien?
Ouais.
Alors, c'est « on ne fait pas d'omelette ».
Merde, on a oublié les rires enregistrés.
Ouais, bon.
Bon, alors, au niveau du téléphone, on en est où?
Et alors, est-ce que tu nous entends maintenant, Vincent, ou pas? Mais il ne nous entend pas. Hein,
mais si tu tiens, Vincent.
Mais c'est horrible. C'est horrible. Alors, ce qui se passe.
Peut-être qu'on peut reléguer Vincent à la chronique d'après. Ouais. Et puis, on peut lancer tout de suite un entretien qu'on a fait hier avec un journaliste de Fakir qui s'appelle Sylvain Laporte. On est allé voir le film Merci Patron au CNP Bellecour. Et après la séance, on a pu le rencontrer et parler avec lui un peu du film.
Elle a eu la plus grosse fortune de France sur le départ. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge.
Bernard Arnault s'engage à garder 12 200 salariés sur les 15 000.
Bernard Arnault n'a rien sauvé du tout. Rien sauvé du tout. S'il a repris le groupe de Saxe-Saint-Frères, c'était pour avoir Christian Dior, mais nous, il n'en avait rien à cirer.
Mais qu'est-ce qui reste de Bernard Arnault ici à Flixetour?
Rien.
Et vous avez prévenu à l'avance qu'il allait vous...
Non.
Mais avec 30 ans de recul, vous ne vous dites pas quel grand homme?
Non.
Parce que quand même...
Non.
Quand même?
Non.
Est-ce que vous avez des preuves de tout ce que vous avancez? Parce que là, vous faites un procès de mauvaise intention à Bernard Arnault, mais...
C'est pas un procès de mauvaise intention, c'est la réalité.
Mais est-ce que vous avez des preuves?
La preuve, c'est le regard. C'est ça, la preuve. Voilà. C'est pas une preuve, ça? Merde. Vous m'énervez aussi. Hein.
Vous avez quand même supprimé combien? 8000 emplois?
Mm-hmm.
Comment a-t-il été possible de faire cela sans créer des problèmes énormes?
Je crois que les partenaires sociaux de cette entreprise, et c'est une des raisons pour laquelle on a pu la ramener à la rentabilité, avaient compris sur le fond. Et ça aussi, c'est un des grands changements intervenus depuis le début de la décennie, avait compris qu'une entreprise devait gagner de l'argent.
Dans l'évangile, il y a « tu ne peux pas servir Dieu et l'argent ». Donc voilà, ou tu sers tes frères ou tu sers le fric. Moi, j'ai choisi mon camp, j'essaie de choisir mon camp.
Bon, on en entend parler partout dans la ville. Je regarde si ça tourne quand même. On sort de la séance de cinéma. On est allé voir Merci Patron et on est tombé sur toi. Apparemment, tu bosses à Fakir.
Badaboum.
Et on s'est dit, ça serait bien que tu nous parles un petit peu pour le Canu Info du film qu'on vient de voir. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce film?
Ouais. C'est donc un film qui s'appelle Merci Patron, qui en gros est, alors il paraît que c'est un documentaire, mais nous on préfère appeler ça un espèce de thriller social ou une farce, quoi. Un truc qui mélange l'humour et l'action, où on va faire chanter le groupe LVMH, qui est dirigé par Bernard Arnault, qui est la deuxième fortune française, et LVMH qui est le premier groupe de luxe au monde, quoi. Donc voilà, on s'empare un peu de la situation dramatique d'une famille d'ouvriers qui a été licenciée en 2007, et on va faire chanter le groupe pour que la famille Clure récupère un contrat et de quoi payer la maison qui va être saisie et qu'ils préfèrent voir brûler plutôt que d'être saisie par les huissiers. Quoi.
Et tu dis nous et on, c'est qui alors, derrière le film?
Alors derrière le film, c'est le journal Fakir, parce que le film a été intégralement financé grâce aux abonnés du journal Fakir, d'abord sur les abonnements, ensuite sur les 60 000 euros qu'on a, un appel à dons qu'on a lancé en octobre, on a récolté 60 000 euros de nos abonnés en 3 semaines, et puis 21 000 euros sur une plateforme de financement participatif en une dizaine de jours. Et puis en plus, ils repayent une troisième fois nos abonnés parce qu'on aime bien leur prendre des sous. Enfin, on les fait participer de plein de manières différentes, quoi. Et donc ils repayent pour aller au cinéma, quoi. Donc c'est le journal Fakir et puis après plein de copains quand même autour.
Et ça voilà. Fait longtemps que vous êtes sur le projet?
Bah alors, LVMH et François Ruffin, alors sur le projet, ça fait depuis 2012-2013. Après, LVMH et François Ruffin, c'est quand même une longue histoire d'amour. Parce que lui, il est vraiment picard, et donc il est Damien et tout ça, sa famille est picarde. Et à un moment, il se rend compte qu'en fait, la fortune du groupe LVMH, de Bernard Arnault, en fait, est née dans la vallée de la Nièvre, est née en Picardie. Et en gros, lui a récupéré le groupe au moment où le groupe plonge, en s'engageant, ne licenciant que très peu de personnes, moins de 20% de l'effectif. Et en fait, il a viré tout le monde, et la seule chose qu'il voulait récupérer, c'est de la marque Dior, qui est la grande marque de luxe de l'Empire Boussac-Saint-Frère à l'époque, Fixe-Cour et tout ça, la Vallée de la Nièvre. Et après le film, François avait fait des émissions pour LVMH, pour Mermet, pardon, pour la Bastille, j'y suis sur LVMH pour France Inter à l'époque. Donc en 2007, quand l'usine ferme et qu'on va une première fois en Assemblée Générale, ensuite il refait un reportage sur que sont devenus 5 ans plus tard les ouvrières, parce que c'est principalement des femmes, ils faisaient des costumes Kenzo, qui sont devenues les ouvrières. Donc c'est là que se tisse cette relation de confiance en fait avec Marie-Hélène Bourlard, et c'est là qu'en fait François re-rencontre les Clures, et que quand on les re-rencontre, eux ils sont dans une merde noire, quoi. Ils ont une dette à l'assurance qui va, comme je disais, qui va leur prendre leur maison, et donc c'est à partir de ce moment-là que l'affaire se lance vraiment, quoi. Et l'affaire se lance aussi au moment où Bernard Arnault, mais bon, c'est pas facile, faut le comprendre. Bernard Arnault s'inquiète pour ses enfants et il envisage de partir en Belgique, tu vois, pour. Il faut qu'il lègue tout son patrimoine à ses enfants, et ce serait quand même dommage que l'État vienne lui spoiler une partie de ses biens, lui qui a travaillé dur quand même dans sa vie pour cet héritage-là, quoi, un peu comme nous tous. Voilà. Et donc il y a cette pression médiatique qui est sur Bernard Arnault, et nous on arrive un peu à ce moment-là aussi dans cette affaire-là.
Et du coup, sur la forme du film, là tu dis qu'il y a évidemment toute l'équipe Fakir et d'autres personnes derrière. Sur la forme du film, on voit beaucoup François Ruffin,
ouais.
Du coup. Quel a été le parti pris? Pourquoi vous le montrez autant? Quel est l'intérêt dans ce que vous avez envie de démontrer
Je veux dire, on ne voulait pas faire un film chiant. Nous, on dit qu'on fait partie d'un ghetto. On est dans notre petit ghetto, quoi. On a nos 7000 abonnés, nos 15000 ventes, nos 10000 ventes en kiosque, nos lecteurs militants, un peu syndiqués, machin. Le monde diplomatique est un gros ghetto dans le monde militant. Voilà, on a tous nos petits canards. Radio Canu est quelque part à son petit ghetto ou son moyen ghetto, je sais pas, sur Lyon ou même nationalement. Voilà, l'idée c'est que nous on voulait faire quelque chose, et puis Fakir on essaie de le faire tout le temps, hein, mais quelque chose qui soit populaire et qui parle à tout le monde, quoi, à toutes les catégories de population, culturellement, socialement, économiquement. Et donc pour ça, ça veut dire qu'il faut faire un film avec des codes qui sont pas les codes du documentaire militant chiant, quoi, on dit qu'on adore, hein, mais où on montre pas. Voilà, on a décidé de pas mettre d'économistes, pas mettre d'anthropologues, pas mettre d'historiens. Nous, on voulait un truc où il y ait de l'action, où il y ait du rythme, où on se marre. Et donc ça passe par une forme de voilà de François, François qui est la personnification, qui est un petit peu le héros, et en même temps voilà qui ramène la trame, qui montre la stratégie, qui est le lien, et en même temps derrière il y a un moment où on se rend compte que les Clures se prêtent au jeu, la famille Clures se prête au jeu, et là ils transcendent la caméra, et il y a le commissaire, un ancien DRG qui bosse à la sécu d'LVMH, si on avait dû écrire ces textes, on n'aurait jamais réussi à ce jeu d'acteur, il mériterait un Oscar, quoi. Voilà,
il révèle, je sais pas si on peut le dire, je le couperai au pire, mais il révèle quand même que ce qui lui fait le plus peur à lui et à LVMH, c'est Fakir, quand même.
Voilà, c'est Fakir, ouais. C'est comme on le dit en débat, c'est l'alliance entre l'internationalement et mondialement reconnu, connu et reconnu journal Fakir et la CGT qui vient se greffer un peu dessus, quoi.
Merci pour l'attention que vous nous portez à votre situation.
Ça, vous l'avez dit depuis, vous savez que je viens.
C'est pour nous une immense espérance. Si le 15 juin, si tout va bien, à la place de mettre le baron de Bazar à Paris, nous ferons un barbecue dans notre jardin. Vous êtes bien sûr le bienvenu.
Mais
venez-vous-nous de champagne.
Non, non, mais le barbecue dans le jardin, vous n'allez pas le faire avec Fakir à la CGT.
Ah non, 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 non,
non, non, non, non.
Et après il y a cette phrase qui fait chaud au cœur, qui dit c'est les minorités agissantes qui font tout. Alors quand tu vois un mec de la sécurité d'LVMH te dire ça, t'as l'impression que le mec il a lu Bourdieu et qu'il vient de faire un cours de sciences politiques, quoi. Bon, c'est super beau comme phrase, en même temps il faut pas se planter non plus, c'est pas que Fakir. Et cette lutte, ce cas très particulier, il se fait sur un immense bluff aussi, que nous on arrive à mettre en scène, quoi. Deux, on est fakir et on connaît les Goudieurs et on connaît les Contis, et il y a plein de boîtes en lutte dans cette Picardie et dans ce Nord-Pas-de-Calais Picardie où c'est la misère sociale et la destruction de l'outil industriel. Et s'il faut venir 15, s'il faut faire venir 15-20 bus d'Amiens remplis de Goudieurs qu'on la rage, en plus à ce moment-là, il y a les vidéos qui tournent, les mecs qui tapent des CRS et tout. S'il faut les faire venir sur Paris pour casser des boutiques Dior ou intervenir dans l'Assemblée Générale, et ben on le fera, quoi. Et je pense que c'est ce bluff, voilà, c'est par cette alliance qui est réelle. Nous, on a plein de passerelles objectives entre la CGT, des représentants syndicaux, une partie du mouvement ouvrier, ce qu'il en reste, quoi, et le journal, et nous, Fakir, qui est réelle. Derrière, il y a l'installation de ce bluff un peu virtuel. On va faire débarquer ce qui reste du mouvement ouvrier qui a les crocs à Paris, et c'est ça qui leur fait peur. Et du coup, on nous dit souvent en débat, là vous êtes il faut peut-être changer complètement les répertoires d'action, peut-être que ça marche plus du tout. Nous, on a envie de dire, on amène quelque chose de plus qui est le fait d'avoir un discours qui est drôle, de rire l'oligarchie, de redonner un peu la patate et eux de se moquer d'eux. Et c'est un truc du coup qui arrive à transcender seulement la CGT, seulement les partis politiques et seulement les petits collectifs dans leur coin. Et ça, c'est hyper intéressant. Faut qu'on se batte ensemble et tout ça. Mais après, on reste quand même sur. Nous, on est 6 à Amiens, quoi. Si je dois résumer le truc, c'est pas Fakir qui va faire la transformation sociale dans ce pays, quoi. Voilà.
Et dans la logique de la volonté avec ce film de sortir du cercle militant, du coup, ouais. Le film est sorti hier. A priori, c'est plutôt bien parti, non
Pour le moment, hier, on a fait 4000 entrées. Ouais. Donc, très concrètement, on a fait 4000 entrées. On a une moyenne d'une cinquantaine de personnes par salle. Ce qui peut paraître pas énorme. Là, on est dans 50 salles cette semaine dans les cinémas d'art et essai en France, bon, 6 à Paris. Enfin, en région parisienne. Moi j'y connais rien au cinéma, mais on a un distributeur normal, on dit tu vas sur Paris, et 50 entrées en moyenne par salle, c'est juste énorme. Le soir on remplit les salles, il y a même des cinoches, on a fait plus que The Revenant, tu vois, avec DiCaprio, bon, il y a peut-être 3 cinés, mais voilà, pour le symbole c'est marrant. Et mercredi, tu vois, il y a le Luxor à Paris, qui est une salle un peu connue, machin, qui devait nous prendre qui faisait 3 séances dans la journée, 14, 16, 18, 21. Je sais pas, et qui a décidé d'en faire une à 11h. Et à 11h, un mercredi à Paris, je suis même pas sûr qu'ils sont en vacances encore, je me souviens plus. Il y avait 40 personnes dans la salle, quoi. Donc pour le moment, on est là, on est sur une stratégie qu'on n'invente rien. Fait, on a une stratégie qui a été totalement pensée par les pompes de la Commission européenne à Bruxelles, qui se passe en deux temps, c'est approfondissement, élargissement. Nous, on parle d'abord effectivement à des militants, à cette petite bourgeoisie intellectuelle dont on est, voire à l'aristocratie ouvrière, les délégués syndicaux, les personnes qui sont un peu plus politisés dans des classes plus populaires. Donc là, nous, on n'a que 15 000 lecteurs, entre guillemets. On veut approfondir notre lectorat presque naturel, quoi, tu vois, approfondissement. Et ensuite, on va partir, on aimerait, quoi. Le but, c'est l'élargissement. Quelque part, si on peut être diffusé dans tous les CGR du pays, on ne crachera pas dessus, parce qu'on pense qu'on a fait un film très populaire et qui parle à tout le monde Et donc, notre mission, enfin ce vers quoi on veut aller, c'est effectivement que monsieur tout le monde puisse aller voir ce film au cinéma.
Est-ce que tu crois que la fille ou le garçon qui sort du film, il a envie de construire lui par rapport à ce qu'il peut vivre dans son entreprise ou je sais quoi, ou dans la société française ou ailleurs, il a envie de construire une lutte collective?
Vas-y, mais pousse ta question jusqu'au bout.
Est-ce que ça va lui donner envie, parce qu'on les voit pas, hein, si on voit une déléguée, tu disais, de la CGT, mais on voit finalement très peu de personnes qui sont là pour rassembler les luttes. Mmh. Et est-ce que ça peut lui mettre le ticket à l'oreille, est-ce qu'il peut, à la sortie du film, émettre l'idée, peut-être qu'il faudrait que je me batte avec les copines, les copains?
Moi je pense, parce que après c'est un film, mais c'est pas qu'un film. Un film, c'est pas seulement quelque chose que tu regardes sur un écran, c'est aussi quelque chose que tu regardes sur un écran entouré de plein de monde. Déjà, c'est pas pareil de voir le film devant son PC dans sa chambre que de le voir dans une salle. Moi, la première fois que je l'ai vu dans une salle qui est pleine, j'ai jamais ri avec d'autres gens au cinéma, quoi. Déjà, ne serait-ce que ça, c'est déjà un point. Ensuite, il y a autre chose, c'est que les gens, ils ressortent du film, grosso modo, enfin, ce qu'on voit pour le moment. Une des premières questions qui se posent, c'est bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est qu'est-ce qu'on fait et pas qu'est-ce que je fais. Alors effectivement, on voit pas la foule se lever dans le film et la construction de la lutte collective et tout ça, même si c'est collectif à une très petite échelle, quoi. Ouais. En fait. Après, il y a quand même les ressorts de la lutte, c'est-à-dire ce que je te disais, de la peur de la CGT, la peur du mouvement social, la peur de la masse, la peur de la violence. Après, sur la lutte collective, dire les gens ils se réunissent dans un cinoche et et ils ressortent des avant-premières, ils ressortent avec l'envie d'en faire quelque chose et l'envie de le faire ensemble. Quoi. Et ils se parlent, et c'est des gens, même si là on touche plutôt ceux qui traditionnellement vont les cinémas d'art et essai, donc c'est un type de population, c'est pas forcément des gens non plus qui se parlent tout le temps. Je pense qu'on a un moment où le tissu social il est tellement ravagé que les gens ils se parlent plus, on est tous chacun de notre côté. Et en vrai la réaction on l'a aujourd'hui. Malheureusement, on l'a pas dans la rue, on l'a pas par un taux de syndicalisme effrayant, on l'a pas par des partis, si on veut des partis qui sont forts, on l'a pas par des mouvements sociaux qui sont forts, on l'a aujourd'hui. Le peuple, il réagit. Il vote FN, quoi. Tout le monde vote pas FN, hein, c'est pas ce que je suis en train de te dire, mais c'est une des réactions de la situation dramatique dans laquelle on est aujourd'hui. Et il faut arriver. Nous, ce qu'on veut montrer par le film, c'est. Ouais, après, on va y aller. C'est, tu vois, Serge Clure, lui, il s'est battu pour quand l'usine elle a fermé, il s'est battu contre le groupe LVMH avec toutes les ouvrières et les ouvriers de l'usine. Et il y avait la lutte du travail contre le capital. Et il y a un moment où ils se sont retrouvés tout seuls, sans emploi. Et il y a un moment où t'oublies cette lecture-là et du coup t'en veux à ton voisin. Et t'en veux à l'arabe du coin, et t'en veux au rhum de machin, et t'en veux. Et du coup, tu passes dans cette réaction politique-là, quoi. Et donc. On pense qu'au-delà des anathèmes politiques et des choses comme ça, ne serait-ce que parce que ce film il permet de réunir des gens, je veux dire l'acte collectif, et presque l'acte politique, sans employer les points de isme et de parti et de machin, l'acte politique quelque part il est là. Quoi. Et moi quand je vois les gens rire ensemble, enfin j'ai jamais entendu une salle rire comme ça, quoi. Je vends pas le truc, moi aussi je le vends en fait. Faut que je sois payé à la fin du mois. Mais ne serait-ce que de voir une salle rire comme ça, déjà rien que ça, c'est un premier pas. On a un moment, je crains que malheureusement on puisse pas se retrouver à 3 millions dans la rue à Paris, acheter des pavés sur l'Elysée ou des choses comme ça demain en claquant des doigts, parce qu'on a un tel moment de désespoir, tu vois, de renoncement, qu'il faut fonctionner par premier pas et que déjà rire dans une salle de cinéma c'est un premier pas. Maintenant qu'est-ce qu'on fait derrière? De discuter avec des gens qu'on connaît pas et qu'on côtoie pas, c'est un autre premier pas. Et voilà. Et nous, si on peut apporter nos petits cailloux et nos premiers pas aux gens, et ben ça sera déjà très bien, quoi.
Ok, voilà. Merci bien.
Bon, on doit y aller.
Et bon voyage.
Je parle trop. Ouais, bon, on va à Villefontaine, c'est pas très très loin non plus.
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tout le bonheur. Ah oui, humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse.
Et voilà, super. On peut maintenant essayer le deuxième essai de cet entretien téléphonique. Alors, Vincent, est-ce que tu nous entends? Ben, il nous entend pas, c'est pas possible. Mais allez, entends-nous, Vincent.
Parle, Vincent.
Moi, il me semble que j'entends un peu Vincent. Non, c'est moi.
Vincent.
Il y a eu un petit son. Hein. On peut pas monter un peu le son.
Est-ce que tu nous entends, Vincent?
T'es à fond.
Tu nous entends pas, Vincent.
Bon, je
crois. Tu nous entends vraiment pas, quoi. Mais alors ça c'est vraiment...
Mais attends, moi je l'entends.
Ouais, mais on l'entend vaguement et très très loin. Ouais.
Ouais.
Mais enfin...
Tu as Madagascar, Vincent?
Mais oui, mais il est parti en voyage, ça y est. Et ben,
il a répondu ouais.
Ouais, on entend, ouais.
Vincent nous entend, mais nous n'entendons pas Vincent.
Ah. J'ai oublié de monter un peu tard, quelque chose.
Mais c'est pas possible, c'est incroyable cette affaire-là.
Alors en tout cas, on n'entend pas Vincent, mais ce qu'on peut dire, c'est que si vous êtes intéressé par l'information qui est plus qu'importante, il est convoqué donc au commissariat suite à la manifestation qui a eu lieu le 11 février en soutien aux étudiants sans papiers, manifestation à l'université. Et si vous voulez des infos sur les mobilisations à suivre, notamment pour le soutenir lui et d'autres, il suffit de lire le grand site d'information lyonnaise Rebellion. Je crois que c'est même en une de Rebellion en ce moment.
On peut peut-être même préciser que le collectif des étudiants et étudiantes sans papiers et solidaires ont un Facebook sur lequel ils mettent toute leur mobilisation. Et bien sûr, si on veut écouter le Canu Info du 12 février, on a un super reportage plein de bluegrass et de folie pour revenir sur cette mobilisation du 11 février. Ouais. Donc, on est bien désolé pour Vincent que ça ne marche pas.
Et on n'aura qu'à l'inviter la prochaine fois.
Voilà.
En studio, on s'entend mieux en studio. Seulement, peut-être pour revenir sur le film Merci Patron rapidement, que j'ai pu voir hier, il a au moins le mérite de montrer la peur qu'ont les grands oligarques. Bernard Arnault, c'est le première ou deuxième fortune de France, 15e du monde, je crois. Et il montre que ces oligarques, ils ont un peu peur des mouvements sociaux, un peu plus qu'un peu peur d'ailleurs. Il montre également un petit peu d'amateurisme dans leur gestion de crise, avec ces vieilles techniques de barbouze qu'ils ont réussi à faire venir auprès d'eux, hein, puisqu'il y a des anciens DRG qui travaillent aujourd'hui pour LVMH. Quant aux limites du film, eh bien, des copains et des copines nous ont dit que l'humour était parfois un peu trop grinçant. Ça, c'est un petit peu le style de François Ruffin, donc c'est selon les goûts. Et puis il y a aussi peut-être une petite tendance à présenter Ruffin, l'auteur du film, et également un des acteurs, comme un héros. Il est peut-être un petit peu trop héroïfié. Voilà, mais on y apprend. Et surtout, on y apprend peut-être pour ceux qui s'intéressent à toutes ces questions, et notamment au poids des multinationales en France et ailleurs. On n'y apprend rien de très très fondamental, ça c'est sûr, mais c'est assez jouissif de voir les puissants se faire piéger. Voilà, voilà, voilà. On va peut-être du coup passer ensuite aux infos nationales. Est-ce qu'on vous balance le jingle ?
La plus grosse fortune
de France. Non, c'est pas ça le jingle. Grosse, grosse cacophonie technique aujourd'hui au Canu Info du vendredi. On va le faire sans jingle ? On fait sans jingle ? Canu Info.
Gendarmerie nationale ! Arrêtez un peu les conneries là, non ?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et oui, il n'y a pas que la bêtise dans ces petits jingles qu'on a limite. Il y a aussi la bêtise d'État avec le contrôle aux faciès, c'est ça ?
Exactement. Alors, on a juste une petite information ce soir pour la rubrique nationale, puisqu'on a un gros agenda ensuite. Un article plutôt qui est paru hier soir sur Mediapart. Et qui racontait le fait que l'État justifie les contrôles aux faciès. En effet, l'État français, condamné pour 5 contrôles aux faciès, a décidé de se pourvoir en cassation. Et Mediapart a pris connaissance du mémoire qui vient d'être transmis à la Cour, dans lequel il est jugé légitime de ne contrôler que les Noirs et les Arabes, au motif qu'ils ont plus de chances d'être étrangers et donc sans papier. Et pour l'État, il ne s'agit plus de minimiser les contrôles aux faciès, donc, ou seulement de contester au cas par cas la démonstration qui en serait faite, mais d'assumer. Il explique, le représentant de l'État, dans ce petit mémo, hein, cette espèce de fadette, qui a été donc révélé par Mediapart, il explique l'État qu'il est légitime de contrôler les Noirs et les Arabes si l'on recherche de possibles infractions à la législation sur les étrangers. Il serait donc logique de les arrêter et de les fouiller, tandis qu'on laisse les Français blancs, non suspects, poursuivre leur chemin. Ce qui ressemble à une nouvelle doctrine écrite, certes dans un langage technique, désigne de fait chaque Noir et chaque Arabe comme un délinquant en puissance. Ce qui va évidemment à l'encontre de toute la jurisprudence française et internationale en la matière. Voilà, donc face à un tel argumentaire xénophobe de l'État, la décision de la Cour de cassation est plus que jamais attendue. Voilà pour la petite information. On suivra cette affaire et on verra quel jugement rendra la Cour de cassation et si elle suivra les recommandations de l'État, c'est-à-dire avaliser le contrôle aux faciès, ce qui est plus que craignos, ce qui ne nous semblerait pas par ailleurs étrange qu'elle avalise ceci. Voilà, et il nous reste 10 minutes pour parler de l'agenda et notamment donc de Nébuleuse qui fête ses 1 an.
Mais avant,
je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel.
C'est quelle fouille.
L'introduction de la rubrique agenda. Parce que effectivement, dans l'agenda, il va y avoir samedi prochain, samedi 5 mars, à l'atelier des canulars, les 1 an de nébuleuse.info. Alors, qu'est-ce que c'est nébuleuse.info ?
J'allais le demander, oui.
Oui. C'est un truc de...
C'est un site,
l'astrologie, je sais pas quoi.
On pourrait penser, mais non. Dans la nébuleuse, il faut juste voir l'idée de réseau, puisque c'est un site qui se veut de rassembler les initiatives et les alternatives dans le travail social et la santé. En fait, c'est à l'initiative de plusieurs personnes qui travaillaient dans le secteur du social et de la santé et qui cherchaient un peu des infos sur des alternatives qui pouvaient se passer en dehors des institutions ou des trucs chouettes qui se passaient aussi dans les institutions à des moments, mais qui sortaient des pratiques normatives.
Voilà, donc du coup, ça fait un an que ça tourne, c'est ça, hein, Nébuleuse ?
C'est ça, ouais. Ça fait un an. Et puis le truc de cette idée, c'était de se dire que quand on ne connaît pas le nom d'une alternative ou d'un gars ou d'un journal qui a pondu les réflexions, on ne les trouve pas, en fait. Et du coup, on tombe un peu dessus par hasard et qu'il n'y a rien qui regroupe ça.
Et là, en fait, sur le site internet, du coup, il y a à la fois des récits, des témoignages de personnes qui vivent dans les institutions ou qui travaillent dans les institutions. Il peut aussi avoir l'écho de lutte, comme celle qui a lieu en ce moment à Toulouse, des personnes sans-abri et des professionnels qui travaillent dans l'urgence sociale, qui ont fait des grèves et tout ça, qui ont permis d'avoir une grosse subvention normalement qui va permettre quand même plus de places en centre d'hébergement d'urgence. Il y a aussi des outils pour s'en sortir, l'écho de groupes d'auto-support.
Donc c'est un réseau qui se développe à l'échelon national. C'est un collectif lyonnais au départ, mais qui relaie des luttes sur toute la France.
Et du coup, ouais, c'est ça l'idée, c'est que c'est parti d'un collectif lyonnais. Et l'idée, là, l'étape 2 du site pour ces 1 an, c'est de passer à un site participatif. Et donc d'inviter tout le monde dans toute la France à venir poster ses réflexions, relayer des articles qu'ils ont pu lire ailleurs, ou des émissions de radio et des vidéos. Et donc il y a une interface qui a été créée où chacun peut écrire un article, peut poser un complément d'info en bas des articles, ou mettre un événement dans l'agenda.
D'accord, et alors on trouve quoi comme rubrique notamment sur Nébuleuse ?
Alors il y en a plusieurs, il y a une rubrique qui s'appelle « Outils pour s'en sortir ». Où là c'est plus vraiment soit des textes juridiques ou des brochures vraiment sur des personnes concernées, comment elles ont trouvé des informations et des trucs pour avoir du pouvoir sur leur vie. Il y a aussi des informations sur les lois craignos, ce qu'il faut éviter.
Il y a en fait, et après c'est des rubriques un peu thématiques qui sont assez bancales en fait, c'est l'idée qu'en fait c'est super dur de faire des cases là-dedans, et du coup c'est des rubriques, je sais pas, par exemple il y en a une folie, psychiatrie, anti-psychiatrie, du coup on sait pas trop où sont les frontières, mais c'est l'idée que quelqu'un qui s'intéresse un peu à ces questions il puisse retrouver des articles là-dessus. Il y a une rubrique sur les drogues, sur les pratiques de corps, les soins de corps, une rubrique sur les migrations, une rubrique sur la rue et le logement.
Une rubrique sur penser le travail quand tu travailles dans le secteur du social et de la santé. Et aussi sur les luttes syndicales aussi dans ces domaines-là.
Et puis, il y a une rubrique enfance aussi, si je ne m'abuse.
Oui, il y a une rubrique enfance.
Et l'idée, oui, c'est de relayer soit des émissions, soit des textes. Il y a différents supports comme ça.
Et aussi, il y a un truc qui vit pas trop en ce moment sur le site et qu'on aimerait bien voir vivre. Et on appelle les gens à poster des trucs, c'est sur la rubrique agenda. Du coup, l'idée, c'est de relayer un petit peu où les moments de réflexion qu'il peut y avoir, et surtout les luttes, en fait, qui trouvent souvent peu d'écho au niveau national ou même lyonnais, et d'essayer de les relayer là pour qu'on prenne l'habitude de regarder cet agenda et de se mobiliser pour ça, quoi.
Et alors, est-ce qu'il y aurait un rendez-vous prochainement pour nébuleuse.info ?
Et oui, donc, c'est la fameuse soirée du 5 mars. Et qu'est-ce que c'est que cette soirée ? L'idée, déjà, c'est au niveau thune, hein, c'est de faire une soirée de soutien pour relayer, pour que nous, on puisse payer le référencement du site et tous les frais, c'est imprimer des affiches, des autocollants, faire de la diffusion, se déplacer des fois pour rencontrer des collectifs ou quoi. Et c'est aussi et surtout présenter la nouvelle interface de publication pour que les gens qui soient là, ils voient comment on fait pour publier, sachant qu'il y a un article là qui a été mis sur le site pour expliquer comment on publie, que c'est assez simple, mais là c'est pour en discuter avec les gens. Et c'est de créer un lieu de rencontre entre différents collectifs de Lyon.
Et du coup, là, les collectifs qui ont déjà répondu présents, il y aura Intermed, qui est un collectif de réflexion sur le travail social et la santé. Il y aura le collectif des professionnels de l'urgence sociale, donc des gens qui bossent avec des personnes en grande précarité, qui essayent de faire remonter des infos et se mobiliser. La CGT Vinatier, donc l'hôpital psy du Vinatier. Le réseau des entendeurs de voix, parce que du coup, ça, c'est des groupes d'autosupport sur l'entente de voix. Et il y a un groupe qui est en train de se monter à Lyon, donc ils seront là. Le projet de la bagagerie sociale et un collectif de soutien juridique aux sans-papiers. Je crois que j'en ai pas oublié.
Oui, c'est ça. Et juste la bagagerie, c'est l'idée voilà, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sans-abri, qui n'ont vraiment nulle part où mettre leurs affaires. Et il n'y a que dans les gares où c'est très cher de poser ses affaires. Du coup, c'est un nouveau projet qui s'annonce.
Et vous pouvez répéter la date alors, de tout ça ?
C'est le 5 mars.
Où ça ?
À l'atelier des canulars, c'est au 91 rue Montesquieu, métro Saxe Gambetta, il y aura à boire, il y aura des trucs à grignoter. Et voilà, et après l'idée c'est de faire un peu une soirée où il y aura, enfin le but c'est de créer des discussions autour du site et de créer des liens aussi entre les collectifs. Il y aura une présentation des collectifs, le but c'est pas que ce soit super long, mais puisqu'on arrive à se créer des liens entre nous et arrive à se mobiliser entre nous.
Une petite précision, c'est que le site, c'est nébuleuseaupluriel.info.
Et merci pour la petite précision. Et pour terminer l'agenda, l'auditeur attentif du Canu Info du vendredi se dit « Mais où est ma rubrique gaz de schiste ?» Eh bien, en fait, on l'a calé cette fois-ci dans l'agenda.
C'est juste, on vous en avait déjà largement parlé tous les jours depuis
que Radio Canu existe.
Non, c'est juste pour vous rappeler qu'en fait, ce dimanche-là, le 28 février, il y a un méga rassemblement à Barjac, donc dans le Gard. Je peux pas vous en dire plus sur le. Mais voilà, vous avez très facilement trouvé. Donc pourquoi ce rassemblement ? Pourquoi ce rassemblement ? En fait, c'était organisé suite au délibéré du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, donc, qui a fait un rendu le 28 janvier 2016 pour annuler donc la décision d'abrogation du permis de Montélimar détenu par Total. Donc Total a récupéré son permis d'exploration, d'exploitation, etc. Et donc les différents collectifs de lutte contre le gaz de schiste donc appellent à une mobilisation pour déjà rappeler que ça c'est une décision qui est intolérable, et aussi parce que c'est pas le seul truc qui est un peu en jeu, il y a aussi le non-renouvellement du permis de Montélimar, c'est celui-là en tout cas, ainsi qu'une trentaine d'autres permis qui sont arrivés à échéance donc en France, le rejet de 133 demandes, c'est beaucoup, de permis en cours d'instruction, donc voilà. Et enfin, c'est un peu le nerf de la guerre pour ces différents collectifs, c'est que soit légiféré, qu'il y ait une légifération pour interdire en fait définitivement de tout ce qui est exploration ou exploitation des hydrocarbures non conventionnels, dont le gaz de schiste.
Merci François Fillon.
De rien. Donc ça se passe dimanche, et ça commence vers 11h le rassemblement, et après il y a une petite marche à 14h. Voilà.
Ok, on finit juste sur un petit rendez-vous lundi à midi à l'Amphi La Prade à Lyon 2, du coup, pour suivre la mobilisation des étudiants et étudiantes sans papier.
Et on retrouvera peut-être, du coup, vendredi prochain, puisque l'insert téléphonique n'a pas fonctionné, le camarade Vincent qui nous parlera de sa convocation au commissariat. Et rappelez également qu'il y a une manifestation demain, en début d'après-midi, devant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à la ZAD. Il y a des bus qui partent de Lyon, mais ils sont sans doute complet. On a terminé l'émission.
Parce que vu qu'on a fait un agenda en miettes, on peut rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver plus d'infos et plus d'événements s'ils ont peur de s'ennuyer ce week-end sur rebellion.info.
Voilà, oui.
Tout de suite.
Et du coup, maintenant, donc c'est la fin. Et maintenant, c'est place à
Noise Pollution.